MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. As-tu du mal à tourner la page? C'est notre thème du jour et Omer, vous ne le voyez pas, mais tourne la page de sa grande main. Ben toi, apparemment, tu maîtrises le tourner de page.
Ah oui, la page de la semaine.
Omer est content, on est vendredi. Et le vendredi, nous avons des C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous aurons le témoignage de Vanessa. Vanessa a mis 17 ans à faire le deuil de son papa. Ça a été une page longue à tourner et elle va nous raconter comment, pourquoi, tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Et puis, bah, quand on parle de tourner la page, hein, on parle de mettre de côté parfois le passé, de passer à autre chose, de ne pas rester dans une situation. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être comme englués dans la même situation, dans la même souffrance, dans la même tristesse depuis des années. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être le jour où vous allez réussir à tourner la page, à passer à autre chose, parce que ça peut vous bloquer dans énormément de domaines de votre vie. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et on va essayer de vous donner quelques clés, quelques conseils pour vous aider à passer à autre chose et à laisser le passé en arrière. Donc Omer, on commence avec toi cette lourde responsabilité dans cette émission de tourner la page dans la pensée du jour.
Il y a une particularité avec la vie, c'est qu'elle est imprévisible. Et oui, la vie est imprévisible. Quand on pense que ça va aller à gauche, ça va à droite. Et quand on pense que ça va bien finir, oui, parfois, ça finit mal. Parce qu'on est sur Terre et c'est normal qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous faire très mal et nous laisser un goût amer. Et c'est normal que cela arrive, même si on est chrétien, parce que parfois, lorsqu'on est chrétien, nous pensons que nous avons l'immunité collective face aux maux de la vie, mais ça arrive. La Bible nous le dit très bien, psaume 34, le verset 19, nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voici la bonne nouvelle pour vous. Ah, Proverbe chapitre 24, le verset 13, nous dit « Cette fois le juste tombe ». Et il se relève. Les méchants sont précipités dans le malheur. Je crois que tu peux te relever de ce qui t'est arrivé. Le malheur arrive, les situations arrivent, mais Dieu est avec toi. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à tirer exemple de plusieurs personnes qui ont traversé des temps difficiles, qui ont eu des situations dans lesquelles ils auraient pu juste s'asseoir, s'écraser, pleurer, laisser faire, et puis passer la vie à se morfondre, mais quelque part, ils ont pris une décision. Il y a la part de Dieu et il y a ta part à toi en tant que personne de prendre la décision d'en finir avec ce chagrin d'amour, de prendre la décision de finir avec cet abus par lequel tu es passé. Tu ne peux pas retourner dans le passé, mais tu peux t'occuper d'aujourd'hui et de demain, de prendre la décision de repartir en affaires. Peut-être que tu es parti en affaires et que les choses n'ont pas marché. Tu peux aujourd'hui te relever, tu peux tourner la page. Tourner la page est une décision que tu prends en t'appuyant sur la parole de Dieu qui dit « Voici, je veux faire toutes choses nouvelles, sur le point d'arriver. » Pour entrer dans les nouvelles choses de Dieu, tu dois prendre la décision de tourner la page. La décision, elle t'appartient, c'est maintenant et c'est aujourd'hui que tu la prends. Alors, il y a quatre façons dont tu peux tourner la page. Tu peux, si comme Joseph, tu as été trahi, au niveau de tes frères, trahi au niveau de ton emploi, tu peux décider de ne pas abandonner, mais de t'accrocher aux rêves et aux promesses de Dieu sur toi et de continuer à avancer parce que le meilleur pour toi est dans le lendemain que Dieu a pour toi. Imagine-toi si Joseph s'était suicidé en prison. Toute la famine qui serait arrivée, la solution aurait été dans le tombeau. S'il te plaît, tu peux te relever. Tu peux encore, comme Jacob, si tu as, comme Job, si tu as tout perdu, tu as perdu matériellement. Il semble que tout autour de toi est un chaos. Tu peux oser, au plein milieu de ton malheur, rêver d'un avenir meilleur. Et comme Quelqu'un l'a si bien dit qui est sur ce plateau en face de moi, l'a dit souvent, rêver c'est gratuit. Tu peux rêver que demain sera mieux. Tu peux rêver car c'est de la multitude de nos pensées que notre attitude et notre avenir va naître. Alors rêve que demain sera meilleur. Si peut-être que tu travailles dans un milieu, un environnement hostile où on fait des crocs en jambes, c'est toujours voilà, des blocages qu'on fait aux gens, eh bien tu peux comme Daniel développer l'art de la prière. Tu peux prendre cette décision de changer la situation dans laquelle tu es, l'hostilité de l'environnement, en faisant appel à Dieu dans la prière, car il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Eh bien, si finalement, comme l'apôtre Paul, tout le monde t'a abandonné, personne n'est là pour te défendre, j'aimerais que tu apprennes à trouver refuge et consolation en Dieu. Parce que parfois dans nos vies, certaines consolations, il n'y a que Dieu qui peut les apporter. Mais souviens-toi, la décision de tourner la page, elle t'appartient et tu dois la prendre aujourd'hui.
Yes, amen. C'est une décision, c'est exactement ça, mais c'est une décision qui est difficile à prendre. Parce que tourner la page, ça veut dire aussi peut-être se séparer définitivement de cette personne qu'on a laissée en arrière, même dans le cadre d'un deuil. Le fait de ne pas faire son deuil, c'est une manière de garder quand même un petit peu cette personne avec nous. Mais c'est le cas peut-être dans une relation qui s'est terminée, un divorce ou une rupture difficile. On se dit que ben, tant qu'on garde cette page un peu en suspens, là, elle vole un petit peu, ça fait extrêmement mal, mais on s'accroche encore, puis on se dit peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que ça va revenir, et si je tourne la page, c'est comme c'est fini, définitivement fini, ça ne reviendra plus, et ça fait peur. Et cette décision, elle peut prendre plus ou moins de temps, puis je pense qu'il faut des fois se laisser aussi le temps. Ce n'est pas le lendemain d'un décès qu'on va tourner la page et passer à autre chose. Il y a une saison, un moment où je pense qu'il y a un ras-le-bol qui doit s'installer, mais un bon ras-le-bol, un ras-le-bol de souffrir, un ras-le-bol d'être malheureux, un ras-le-bol d'être bloqué dans ces domaines de notre vie, d'être dans c'est un espèce de handicap relationnel qu'on peut avoir selon la dimension de ce qu'on a vécu, et ce ras-le-bol qui pousse à dire maintenant, il est temps que ça cesse, il est temps que je tourne la page, il est temps que je passe à autre chose. Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'ai eu à un moment donné cette décision à prendre de tourner la page. J'ai dû renoncer à une relation pour suivre le Seigneur. Et pendant 3 mois, j'étais complètement bloquée dans ma vie, dans mes émotions. Je pense que j'ai pleuré tous les jours pendant 3 mois. Et à un moment donné, j'ai dû crier à Dieu, puis dire « Seigneur, interviens, fais quelque chose. » Et je lui ai parlé de cette situation, j'ai répondu mon cœur et je lui ai dit ce que je voulais qu'il fasse en moi. Opère cette guérison en moi. Et il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il est bon, mais parce que j'avais pris justement cette décision. Une fois que la page est tournée, on croit que ça va être encore plus douloureux parce qu'on met un terme à cette situation, mais en fait, on se sent tellement mieux parce que le poids nous quitte, la douleur nous quitte et on peut peut-être enfin faire notre deuil. Notre deuil, ce n'est pas seulement un décès, c'est le deuil d'une situation, le deuil d'une vie, le deuil d'un rêve et on peut enfin passer à autre chose.
En fait, je crois que dans ce que tu dis, tourner la page commence d'abord par accepter que c'est arrivé.
Oui, c'est vrai.
J'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, écoute, telle personne de ma famille est décédée, ça fait 3 ans que tu pleures et c'est tout à fait normal, mais c'est le jour où tu acceptes que c'est arrivé. Mm-hmm. OK, c'est arrivé, je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer le passé. J'accepte que c'est arrivé. J'accepte que, on m'a volé l'argent. Tant que je n'accepte pas, je vais me traiter de stupide, de ceci, de cela, Alors, je continue dans un monde d'accusation. Oui. Mais si je dis, OK, c'est arrivé, je fais le tour, j'ai tourné, oui, j'ai une erreur à tel endroit, c'est vrai. Mais c'est arrivé, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Et souvent, les gens vont vraiment rester dans le mode, oh, je ne reviens pas, comment ça peut m'arriver? Comment Johnny peut me quitter? Ben oui, les gens quittent les autres, les uns les autres, ça arrive. Mais c'est quand je l'accepte que maintenant je peux accepter la main que Dieu me tend pour me relever.
Et contrairement à peut-être une page sur laquelle on peut raturer, on peut effacer, on peut changer sur nos documents, nos Google Docs, etc., la vie, c'est pas ça. La page, elle est écrite, et tant qu'on reste dans cette page écrite du passé, bah, on peut rien changer. Il n'y a pas un mot qu'on peut changer, il n'y a même pas une virgule qu'on peut changer. Et quelquefois, bah, on reste coincé sur cette page en essayant de réécrire, en essayant de reconstruire, mais il n'y a pas mille solutions. Si on est dans le passé, ça ne change rien, comme Omer l'a dit, on ne peut rien changer au passé. Par contre, on peut en faire des lectures X ou Y à n'en plus finir. On vit dans le passé, le passé passé, mais c'est nous qui vivons dans ce passé-là en essayant de réécrire une histoire qu'on ne peut pas réécrire dans c'est le passé. Et la seule solution de pouvoir continuer d'écrire l'histoire, c'est de tourner la page. Et là aussi, je crois que c'est important de bien tourner la page. Il y a une différence entre tourner la page et déchirer une page. C'est comme il y a une différence entre fermer une porte et claquer une porte. Tu déchires la page, c'est un acte... c'est des images, mais c'est des actes de colère, de réaction. Ça veut dire qu'on peut le faire aussi dans l'offense, etc. Donc on va réécrire une page avec tous ces sentiments. Tourner la page, c'est que consciemment, je fais ce choix. Voilà, le passé est écrit. Je suis peut-être pas d'accord avec ce qui a été fait. C'est pas ce que je veux, mais je prends la bonne décision de tourner la page avec les bonnes motivations, en m'assurant d'avoir pardonné, d'être prêt à faire mon deuil, de partir sur un chemin de guérison et de pouvoir réécrire cette page avec l'aide du Saint-Esprit. Et ça, je pense que c'est une chose aussi qui est importante à faire. Tourner la page, mais bien la tourner.
Effectivement, oui. Puis dans le fait de bien la tourner, c'est aussi, effectivement, tu le disais, accepter le passé. Et puis, c'est pas oublier et faire comme si cette page n'avait jamais existé. Des fois, on se dit, bah, si je tourne la page, c'est comme si ça n'a pas existé. Mais ça a fait partie de votre vie, en fait. Donc, ça va vous accompagner tout au long de votre vie. Votre mémoire ne va pas être effacée. Ça va vous accompagner, mais ça ne vous fera plus souffrir, en fait. C'est vraiment ça, la différence. Et souvent, tourner la page, c'est accompagner du pardon aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des circonstances qui nous obligent à pardonner pour pouvoir tourner la page. Sinon, à chaque fois qu'on voit cette page, on relit cette histoire, ça nous fait tellement mal, bah, on pardonne et en fait, la page se tourne toute seule, naturellement, parce qu'on prend la décision de pardonner. C'est assez spécifique selon les cas. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour tout de suite. Job 17, au verset 9. « Le juste néanmoins persévère dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Et ce verset, je pense qu'il est vraiment approprié pour l'un d'entre vous qui avait vécu une injustice, qui avait été vraiment bafoué, qui avait été peut-être abandonné, même quelque chose qui était injuste. Eh bien, ce verset est pour vous. Oui, vous vous fortifiez de plus en plus et vous restez sur votre voie, que cette injustice que vous avez vécue ne vous pousse pas, ne vous éloigne pas de la voie, de la bonne voie sur laquelle vous étiez, mais au contraire que vous puissiez tourner la page sur cette injustice que vous avez vécue et rester bien aligné sur la voie sur laquelle vous étiez, une voie qui est bonne et une voie qui vous amènera à vivre encore de belles choses.
Je termine en encourageant les gens aussi à l'image de Joseph, de David, qui ont connu des temps difficiles. Parfois, les malheurs qui nous arrivent sont en fait les pierres dont Dieu se sert pour faire de nous le grand homme, la grande femme qu'on sera demain. C'est pas vrai que tout est nécessairement négatif. Et on va voir au travers de la vie de Joseph, c'est qu'il va développer le potentiel qui était en lui. Mm-hmm. Eh bien, si ses frères ne l'avaient pas mis dans le puits, il ne serait pas devenu un bon administrateur. Mm. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas pu commencer à expliquer des rêves. Donc, voyez, donc parfois aussi, oui, ça arrive, mais soyons réalistes. Si dans les malheurs qui nous arrivent, nous pouvons aussi grandir, devenir fort, devenir meilleur. Mais encore une fois, ça demande qu'on passe par le processus de guérison. Et au travers maintenant d'un regard, on peut voir maintenant les leçons qu'on a apprises. Et parfois, on peut devenir même un bon conseiller pour quelqu'un. Donc, ne restons pas seulement dans l'angle que, ben, écoute, c'est arrivé. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent. Il n'y a pas de leçon à tirer dedans. Mais quelqu'un qui est passé par quelque chose peut devenir utile pour quelqu'un d'autre.
Effectivement. Et je vous propose qu'on puisse regarder l'histoire de Vanessa qui nous a raconté son processus de deuil qui a été plutôt long, mais elle a réussi à tourner la page. Je vous laisse découvrir son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». « Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi une sœur. Elle s'appelle Vanessa et elle est venue nous raconter son histoire. Hello Vanessa.
Bonjour Evelyne.
Comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Et toi?
Ça va très bien. Merci d'être ici, d'avoir accepté de nous raconter un récit d'une bonne portion de ta vie, 17 ans très exactement.
Oui.
Et tu vas nous parler de comment tu as eu à faire le deuil de ton père pendant de nombreuses années. Ça a été long. Et pour commencer, tu es née au Gabon, donc ouais. une Gabonaise. On peut saluer tous nos amis du Gabon. Et tu es née dans une famille catholique, une belle famille où régnait la joie, la bonne humeur. Et tu étais la petite chouchou de ton papa, c'est bien ça?
Oui, effectivement. J'étais donc la chouchou vraiment, celle qui était collée à son papa tout le temps. Et donc, on a grandi comme ça, vraiment en harmonie avec mes frères et sœurs. Donc, on est 6 enfants. Wow. Et donc, c'est lors de mon 11e anniversaire que les choses vont un peu se passer différemment. Donc, c'est là que je vois que mon père organise un peu mon anniversaire différemment, parce que d'habitude, il était très attentionné. Il prenait le temps de m'organiser quelque chose, me demander ce que je voulais. Et là, je voyais que... Bon, il était préoccupé par autre chose et bon, ça, c'est comme passé, il a comme oublié. Et donc, il me disait, ne t'en fais pas, on va retravailler ça une autre fois, on va vraiment se reprendre. Et donc, ma journée va se passer déjà différemment dès le départ. Et par la suite, mon papa devait se rendre donc quelque part, devait effectuer un voyage.
C'est ça, il était absent le jour de ton anniversaire.
Exactement. Donc, en fin de journée, il est parti et donc... C'est de là que moi, je ne l'ai plus revu parce qu'il est décédé la nuit de mon anniversaire au lendemain.
C'est ça. Donc, au milieu de la nuit, tu vas te réveiller à un moment donné, vers le petit matin. Tu ne sais pas exactement l'heure qu'il est.
Oui.
Donc, tu as 11 ans et puis tu entends, tu es réveillé par des bruits dans le salon, des cris et tu vois de la lumière. Et là, tu te lèves pour aller voir ce qui se passe.
Oui. Donc, je me lève parce que j'entends les bruits et je me demande un peu ce que c'est. Et donc, je suis interceptée par mon grand frère. Dans le couloir et mon grand frère donc me ramène sur mes pas donc dans ma chambre et me dit Vanessa, papa est décédé. Moi, 11 ans, ce sont des mots qui ne disent absolument rien pour moi et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller voir ce qui se passait dans mon salon. Donc je lui dis d'accord et je vais dans mon salon et je vois donc toute ma famille, je vois ma mère, mes frères et sœurs, mes tantes, ma grand-mère, des voisins. Dans notre salon, en train de pleurer, de crier. Et donc, ma mère qui m'annonce que mon père est décédé aussi.
Waouh. Et là, du haut de tes 11 ans, tu comprends ce que ça signifie?
Pas du tout. Pour moi, c'est peut-être qu'il est parti pour un voyage et qu'il reviendra. Peut-être que, au bout de 2-3 semaines, je le reverrai. Ou peut-être que je vais le recroiser quelque part. Je n'ai pas vraiment fait la notion... de ce que était vraiment la mort. Mm-hmm. Et donc, je m'attends nécessairement à un signe de sa part, à quelque chose de particulier.
Mm. Et donc, là, tu vas pleurer quand même, tu vas être triste, et tu vas te retrouver le jour des funérailles. Mm. Tu vas voir même le corps de ton papa dans le cercueil. Est-ce que là, tu comprends un peu plus ce qui se passe?
Pas plus. Donc, j'ai juste obéi un peu à ce qui se passe de manière traditionnelle. Donc, il fallait aller voir... le cercueil, on nous bandait les yeux, les enfants de la personne qui est décédée, et on nous demandait qui c'était pour une prise de conscience, donc que tu répondes qui était là. Et donc je l'ai fait, je suis allée, on m'a enlevé le bandage sur les yeux, je l'ai vu, et c'était la première fois aussi que je voyais donc un corps. Et j'ai répondu parce qu'effectivement c'était lui, mais dans ma tête il n'y a pas eu encore, il n'y a pas eu ce rapprochement de me dire c'est vraiment lui, qu'il est vraiment mort. Et donc, s'il est là dans ce cercueil, c'est qu'il est mort. C'était juste une image qui m'est restée en fait, dans la tête. En fait.
C'est ça. Mmh. Et là, les années vont passer. Au début de l'adolescence, tu vas vraiment donner ta vie au Seigneur. Mmh. Tu vas vraiment devenir enfant de Dieu. Mmh. Est-ce que ça change quelque chose pour toi par rapport au deuil de ton papa?
Pas plus. Dans le fond, j'accepte le Seigneur, je reconnais qu'il est mon Dieu, qu'il est mon Père, mais j'ai encore des réserves. Donc je lui donne une partie de mon cœur, mais pas plus. Donc je vis ma vie, je me fais baptiser, mais cette partie-là, on dirait que je veux pas qu'on y touche.
Et t'es en colère contre Dieu à ce moment-là, parce que tu tu t'estimes que c'est lui qui t'a pris ton papa, c'est ça?
Oui. Oui, je suis en colère. Et donc, une fois à l'église, il y a une dame qui s'approche de moi, une dame que je connais quand même très bien, qui priait pour nous, etc. Et qui me dit, bah, Vanessa, tu es en colère contre Dieu et tu devrais relâcher ça. Et je me dis, mais ce n'est pas possible parce qu'on est des chrétiens, on ne peut pas être en colère contre Dieu. Et je me dis, bah, non, je ne suis pas en colère contre Dieu. Et oui, au final, je me rends compte que oui, Vanessa, tu es en colère contre Dieu. Et il fallait que ça sorte. Donc clairement, je suis venue comme un enfant devant Dieu en disant, bah oui Seigneur, je t'en veux, parce que tu ne l'as pas ressuscité, parce que ta parole dit que tu ressuscites les morts, mais lui, tu ne l'as pas ressuscité. Et pour moi, c'est comme si Dieu l'avait pris de manière volontaire et pour me faire souffrir.
Et le lendemain de ton anniversaire.
Le lendemain de mon anniversaire, donc c'était comme une double douleur, on peut dire ça comme ça. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait, tu voulais tellement me faire souffrir que tu as planifié les choses de manière, entre guillemets, parfaite. Mm-hmm. Et quand j'ai vraiment relâché ça et que je me suis mise à pleurer et que j'ai vraiment laissé mon cœur devant le Seigneur en disant, oui, j'ai mal parce que bah, toi, tu es Dieu et que tu veux qu'on t'aime, qu'on te fasse ton confiance, mais tu me fais souffrir. C'est là que ma colère contre Dieu s'en est allée.
C'était l'étape 1, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont pris du temps. Ensuite, on peut aller vers l'âge de 19 ans. Tu vas avoir envie de commémorer un petit peu ton papa en faisant un tatouage, c'est ça?
Oui, donc je décide de me faire un tatouage. Mm-hmm. Et je vais voir ma mère. Donc je lui dis, maman, je veux me faire un tatouage dans le dos avec la première lettre du prénom de mon père. Mm-hmm. Et ma mère me dit, d'accord Vanessa, mais ce tatouage ne va pas le faire revenir. On sait tous que tu aimais ton papa, mais il ne reviendra pas. Du haut de mes 19 ans, je me dis, bon... Quel discours, bien sûr, je sais qu'il ne reviendra pas, il est mort. Et donc je vais me faire tatouer. Et le soir, en rentrant chez moi, lorsque je regarde mon tatouage dans le miroir, je m'effondre.
Mmh. Et que tu t'effondres parce que finalement, ce que ta mère t'avait dit avant, ce n'était pas faux. Tu t'attendais à ce que ce tatouage, peut-être pas le fasse revenir, mais en tout cas procure quelque chose?
Oui, inconsciemment, j'avais une attente. Mmh. Et effectivement, ma mère avait raison. Et pour moi, ça n'est pas de sens. Mais quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, oui, Vanessa, tu t'attendais à quelque chose.
Et donc, ce jour-là, tu comprends que ton papa ne reviendra plus, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Donc, il y a quand même 8 ans qui se sont écoulés. Mmh. Mais c'est juste le début là, du processus de deuil, si on peut dire. Ensuite, vers l'âge de 23-24 ans à peu près, tu vas lire un livre qui est quand même assez connu, The Shark ou La Cabane,
oui.
C'est ça?
Oui, donc à 23-24 ans, je décide de lire ce livre-là, parce qu'il a déjà été très populaire. Donc, oui. L'histoire était aussi intéressante. Ça parlait aussi donc d'un papa qui avait perdu, lui, sa fille. Oui. Et donc, en lisant le livre, je ressens vraiment fortement à l'intérieur de moi, à la fin du livre, une voix qui me dit, Vanessa, tu dois le laisser partir. Et j'étais dans ma chambre, toute seule, et je me suis mise à pleurer. J'ai dit non, c'est impossible. Et je me suis mise à pleurer tellement fort que ma mère, qui était dans notre salon, m'entend et me rejoint. Et me dit, Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais maman, je ne veux pas le laisser partir. Elle me dit, mais de qui tu parles? Et je dis, je ne veux pas laisser papa partir. Oh. Et je sentais vraiment un gros nœud dans la gorge. Je transpirais, je ne me sentais pas bien, j'avais l'impression de manquer d'air. Et ma mère qui me dit, il faut que tu le sortes de ta bouche, il faut que tu le laisses partir. Et ça m'a pris un bon 5-10 minutes pour pouvoir le dire, pour pouvoir dire ces simples mots, papa, je te laisse partir. Wow. Et ça m'a procuré une grosse liberté, un poids qui est vraiment sorti de moi.
C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tu avais fait beaucoup de rêves. Dieu te parlait à travers beaucoup de rêves. Et dans ces rêves, à chaque fois, tu voulais rester avec ton père et tu ne voulais pas rester avec ta mère, tes frères et sœurs, avec les vivants, finalement. Oui. Et Dieu te montrait qu'il fallait que tu prennes cette décision de laisser ton père partir. Mmh. Mmh. Et donc ça, c'est une décision qui change quand même beaucoup de choses pour toi. Oui. Mais malgré tout... Toujours à la même époque de l'année, arrivé à la fin du mois d'août, tu sais que ton anniversaire au début septembre va arriver, et donc l'anniversaire de sa mort également. C'est toujours difficile à cette période?
Oui, vraiment une grosse période où je change complètement de personnalité, où je deviens vraiment triste, mélancolique, où je n'ai pas envie d'être avec les gens, je veux être toute seule, je n'ai pas envie de fête. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on me parle d'anniversaire. Pour moi, il est hors de question que je puisse célébrer mon anniversaire, sachant que la personne que j'ai le plus aimée n'est plus mm-hmm. et que ce serait comme une sorte de trahison. Donc, pendant des années, ça a été vraiment ça.
Tu t'es privée de ça, tu n'as pas fêté tes 18 ans, tes 20 ans, et même au contraire, tu le passais dans la souffrance, dans la tristesse.
Oui.
Et à 27 ans, tu vas te marier.
Oui.
Et ton mari va décider qu'il en est terminé de ne pas fêter ton anniversaire pour tes 28 ans. Qu'est-ce qu'il va faire ?
Oui, donc il va m'organiser une petite surprise et puis m'acheter des cadeaux, me faire magasiner. Et je me sentais très mal. En même temps, il y avait un petit côté qui prenait plaisir. Mais en même temps, il y avait ce côté qui me disait non, j'ai pas le droit. Et à la fin de la soirée, je me suis dit oui, finalement, Vanessa, peut-être que oui, tu devrais fêter ton anniversaire, être reconnaissante à Dieu pour la vie que tu as. Mmh. Et que c'est un privilège et non pas, c'est pas une sorte de trahison, mais c'est vraiment un privilège d'être en vie, de juste être reconnaissante pour cela à Dieu.
Waouh. Et donc là, il y a 17 ans qui s'étaient écoulés depuis le décès de ton papa. Donc pendant 17 ans, tu n'as pas fêté ton anniversaire. Ouais. Tu te l'autorisais pas. Pour toi, c'était comme une trahison vis-à-vis de ton papa ?
Oui, pour moi, c'était vraiment le trahir. C'était trahir sa mémoire. C'était que je lui montrais que je ne l'aimais pas, en fait. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et fêter alors que lui n'est plus ?
Ouais.
Et donc pour moi, c'est, je trahissais sa mémoire. Je n'avais pas le droit. Vraiment, je sentais... que je ne pouvais pas me permettre ça. Mais Dieu merci, Dieu est tellement bon qui sait comment nous faire comprendre les choses aussi.
Amen, amen. Et il y a eu tes 30 ans qui sont arrivés, on ne dévoilera pas tout ton âge, hein. Mais tu es arrivée au cap des 30 ans.
Oui.
Et là, tu t'es dit, on va vraiment célébrer ça comme il se doit, parce que finalement, tu avais passé beaucoup de caps importants.
Oui, à mes 30 ans, donc je dis à ma sœur quelques semaines avant, je lui dis, écoute, je vais avoir 30 ans, je veux une grande fête, et même moi, je trouvais ça bizarre de le dire,
oui.
J'ai vraiment une grosse fête, etc. Donc elle, avec mon mari, mes frères et sœurs et ma maman, donc ils m'organisent une grosse fête, un gros repas avec plein de monde, et cette journée-là, je suis arrivée dans la salle, j'ai vu tous les ballons, tous les forts, tout l'amour qu'ils m'ont donné. Et je me suis dit, il est hors de question que je passe à côté de ça.
Wow.
Et je me suis dit, non, ça y est, ça suffit. Je ne vais plus me laisser chaque fois ramener dans le passé.
Mm-hmm. Mm. La page a été tournée.
Oui.
Wow. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce très, très beau témoignage. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi.
Merci, Evelyne.
Que ce témoignage puisse encourager quelqu'un. Ça peut prendre plus ou moins longtemps de tourner une page, de passer à autre chose, mais lorsque c'est fait, vous vous sentirez tellement bien, tellement mieux, et vous pourrez enfin aller de l'avant. Donc notre prière pour vous, c'est vraiment que vous puissiez être fortifié et que vous puissiez dès aujourd'hui prendre cette décision de tourner cette page, de bien la tourner comme on l'a dit, de vivre ce processus de guérison qui est nécessaire, mais que vous puissiez aller de l'avant, que vous ne soyez plus bloqué dans certains domaines de votre vie. Vraiment que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie. Nous savons que c'est difficile dans certains cas, mais nous croyons que Dieu est avec vous et qui va vous donner la force de passer au travers. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous tout au long de cette semaine et on va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite un très bon week-end.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.